Nous allons continuer notre parcours. Ça va jusqu'ici. Nous allons passer de l'Ancien Testament et l'Ancien Testament aussi de toute notre vie finalement pour vérifier ou du moins appeler la présence de l'Évangile dans notre vie. Si l'Évangile, si le Seigneur accomplit les Écritures de l'Ancien Testament, il faut que notre Ancien Testament personnel soit accompli aussi par la présence du Seigneur et la rencontre de l'Évangile. Alors, entrons dans cette dimension de la fraternité, commencé ce matin à partir des expériences notamment de Caïn et Abel et également de Joseph et de ses frères à la fin de la Genèse. Histoire d'une fraternité difficile qui commence au début de la Genèse avec Caïn et Abel et dans le dernier chapitre avec cette réconciliation, cette juste place, ce retour dans une relation à peu près normale, au moins nouvelle et dans une forme de paix qui conclut ce même livre de la Genèse, l'histoire donc d'une fraternité qui partait mal au départ et qui par l'action du Seigneur se voit transformée et devient possible. Alors voyons à présent frère en Christ avec le Nouveau Testament, une relation exigeante. Jésus instaure un nouveau type de fraternité qui, loin de toute mièvrerie, exige une solidarité qui peut aller jusqu'au don de sa vie et qui bouscule l'hiérarchie. Les écrits du Nouveau Testament désignent fréquemment les disciples de Jésus par le terme de frère. Qu'est-ce qui justifie un tel usage inhabituel dans le monde antique ? Eh bien, c'est le chapitre 3 de l'Évangile de Marc, les versets 31 à 35, qui offre une première réponse. Vous connaissez tous ce passage. Voici ma mère, voici mes frères. Alors que sa mère et ses frères viennent le chercher, Jésus regarde les disciples assis près de lui et répond: voici ma mère et mes frères, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Il oppose ainsi la parenté naturelle, à la parenté naturelle, un lien spirituel plus fort, qui l'unit non seulement aux disciples présents, mais à tout homme, toute femme, faisant la volonté de Dieu. Vivre dans une obéissance à Dieu en acte, à l'exemple de Jésus et selon sa prédication, fonde, pour Marc l'évangéliste, une fraternité nouvelle et véritable entre disciples et le Christ. Vivre ainsi peut exiger de quitter sa famille naturelle. On en sait quelque chose. Luc 9, les versets 59-62, parle aussi. Mais c'est retrouver une véritable famille bien plus vaste, sujette aux persécutions, mais bénéficiant de la promesse de la vie éternelle. Marc 10, 29-30. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre à l'exemple du Fils de Dieu. Et saint Paul reconnaît dans la fraternité ainsi constituée un don de Dieu. Il dit dans sa lettre aux Romains au chapitre 8, verset 29, « Car ceux que Dieu a d'avance connus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. » Romains 8, verset 29. Cette grâce de Dieu est aussi pour l'Épître aux Hébreux un choix assumé par le Christ en faveur des hommes. parce qu'ils ont même origine. Le Christ n'a pas honte d'appeler frères ceux qu'il sanctifie. C'est le chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi il a accepté d'endosser la condition humaine en toute chose jusqu'à la souffrance pour guider ses frères à la gloire qui est l'achèvement de leur vocation humaine. C'est le chapitre 2 de la lettre aux Hébreux, toujours les versets 10 à 18. Dans le quatrième évangile, l'évangile de Saint Jean, ce n'est que ressuscité que le Christ affirme la fraternité qui le lie aux disciples. Ils sont frères parce qu'ils ont Dieu pour Père. Jean 20, verset 17. On devient enfant de Dieu par une nouvelle naissance d'eau et d'esprit. C'est ce que nous avons vu avec notre vieil ami Nicodème, Jean 3, verset 5, qui intervient lorsque l'on accueille dans sa vie le Verbe de Dieu et lorsque l'on croit en lui. On est alors engendré non d'un désir humain, mais de Dieu. C'est dans le prologue de Jean. Vous avez retenu ce processus dans l'évangile de Jean. On est frère parce que nous avons Dieu pour Père. On devient enfant de Dieu dans une nouvelle naissance d'eau et d'esprit, qui intervient lorsqu'on accueille le Verbe et lorsque l'on croit en lui. On est alors engendré non d'un désir humain, mais de Dieu. Accueillir la parole divine incarnée en Jésus fait entrer dans la fratrie des enfants de Dieu. Frères en Christ, les disciples sont solidaires dans la félicité ou l'épreuve. Ainsi qu'en témoigne l'Apocalypse. Moi, Jean, votre frère et compagnon dans l'oppression, la royauté et la résistance en Jésus. C'est le chapitre 1er, verset 9. Considérez l'Église comme une famille de frères, fils d'un même père, a trois implications. En premier lieu, dans une famille, les frères et les sœurs sont des égaux. Matthieu 23, versets 8 à 9, insiste sur ce point. Vous ne vous faites pas appeler rabbi, car vous avez un seul maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car vous en avez un seul, le Père céleste. Même si certains exercent des fonctions d'enseignement, de gouvernement dans la communauté chrétienne, ils ne peuvent à ce titre usurper l'autorité du Christ ou du Père qui fonde la fraternité des disciples, ni accomplir leurs tâches sans l'esprit fraternel qui lie ces derniers. Paul, citant probablement une formule baptismale, rappelle que le baptême, par lequel on devient fils et fille de Dieu, rend inopérantes les différences de statut hérité. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a pas homme et femme, car tous vous êtes un en Christ Jésus. C'est dans l'Épître aux Galates au chapitre 3, verset 28. Si bien que Paul priera Philémon d'accueillir son esclave fugitif, Onésime, non comme un esclave, mais comme un frère. Philémon 15. La fraternité en Christ n'est pas sans conséquences sociales, sans interroger les statuts hérités et les propositions de pouvoir acquises. Vous êtes tous frères, personne n'est supérieur à un autre, ne vous faites pas appeler rabbi, ni père, etc. Il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus d'esclaves ni d'hommes libres, il n'y a plus de hiérarchie sociale, il n'y a même plus d'hommes et de femmes, car tous vous êtes un en Christ Jésus. Plus de différence. En deuxième lieu, la solidarité matérielle au sein de la famille est un devoir sacré dans une société de précarité où le clan familial assure seul le soutien des plus fragiles. La fraternité ecclésiale exige cette solidarité et la première lettre de Jean attire l'attention sur ce point. Elle exhorte celui qui possède des biens à ne pas fermer ses entrailles à son frère dans le besoin. C'est une manière de risquer sa vie pour ses frères, à l'instar du Christ, et de se démarquer de Caïn, qui lui brisa la première fratrie en égorgeant son frère. Vous retrouverez toutes ces allusions dans la première lettre de Jean au chapitre 3. Et en troisième lieu, dans la société antique, tout membre d'une famille doit promouvoir l'honneur de celle-ci en évitant notamment les divisions qui affaiblissent. L'Église est soucieuse de l'harmonie relationnelle entre frères et sœurs, posant des règles pour gérer les conflits et encourager le pardon. 70 fois, 7 fois, etc. Vous trouvez ça dans l'Évangile de Matthieu. Parfois, il faut aussi démasquer l'attitude des faux frères qui sèment la zizanie. Galates 2. En définitive, l'attitude observée vis-à-vis du frère est doublement décisive. Elle est le critère de vérification de l'amour que l'on dit porter à Dieu, selon la première lettre de Jean. Celui qui dit aimer Dieu et qui déteste son frère est un menteur. Et le critère du jugement selon Matthieu 25, où le Christ s'identifie au plus petit des frères auxquels on est venu ou non en aide. La fraternité, selon l'Évangile, et que nous essayons de vivre, vaille que vaille, dans notre vie religieuse, et même aussi en famille, mais dans la vie religieuse, eh bien, c'est justement de gommer, a priori, ces pouvoirs les uns sur les autres, c'est de venir au secours les uns les unes des autres, c'est donner place et harmonie dans la vie des uns des unes des autres. Autrement dit, c'est la communion. Quand je disais qu'on était parfois plus proche de l'Ancien Testament que des exigences de l'Évangile, on s'en approche. Mais notre Ancien Testament et notre vie a vraiment besoin d'être transformés, traversés, irrigués par la présence et la puissance de la grâce de l'Évangile que Jésus révèle. On va observer, regarder l'œuvre d'art du jour. Alors, je vais brancher tout ça, ça va prendre quelques secondes, excusez-moi.
Nous allons.
Donc, vous pouvez reprendre également votre feuille de ce matin. Vous avez cette représentation. De cette approbation, cette fresque de Giotto qui se trouve dans la basilique supérieure d'Assise, vous connaissez peut-être, qui montre donc l'approbation de la règle de vie que François et ses premiers frères présentent au pape. Maintenant, on va dire comme d'habitude, je vous laisse simplement. Alors, ce n'est pas une scène évangélique, ça change un peu, mais elle est inspirée de l'évangile quand même. De regarder, prendre connaissance de ce que l'on voit sur cette fresque, sur ce qu'elle représente. Lorsque Giotto peint dans la basilique supérieure d'Assise l'approbation de la règle franciscaine par le pape Honorius III en 1223, il ne peint pas les événements tels qu'ils se sont déroulés, mais une mise en scène de l'image que voulait donner l'ordre de lui-même. Jamais, en effet, François n'a rencontré le pape ainsi. Déjà très affaibli par les stigmates et les privations, il s'était retiré à Fonte Colombo et s'était contenté de faire approuver sa règle par le chapitre général. On reconnaît dans cette fresque l'interprétation particulière de la fraternité que promouvait François. Diversité, unité et humilité. Diversité. Car les frères sont tous différents. Et Giotto, qui est le premier à vraiment individualiser les visages dans l'art médiéval occidental, s'en tire à merveille. Des jeunes, des vieux, des petits, des grands, des barbus, des glabres. Unité. Car malgré leurs différences, les frères ont adopté le même costume, la même tonsure, la même attitude. Visuellement, leur unité est manifestée par le caractère compact de leur groupe et par la mise en prolongement de ce qui la constitue. François, le fondateur, derrière lequel tous se regroupent, la règle qui unifie les comportements, la main du pape qui signifie l'incorporation dans l'Église et la soumission au successeur de Pierre, garant de l'unité. Humilité, enfin, car tandis que le pape est assis sur un trône surélevé et que les prélats et les clercs qui l'entourent se tiennent soit assis, soit debout, les franciscains sont à genoux. Je vous propose. Décidément. Ça, c'est quand on a des. C'est pour la quête. Je vous propose, puisque vous portez toutes autour du cou une croix, la croix de votre congrégation, de vous saisir de cette croix, de vous saisir de cette croix, de la regarder. De la regarder, de la toucher, de la prendre en main, de la regarder soit avec vos mains, soit avec vos yeux, et de se souvenir qu'il ne s'agit pas d'un bijou, mais du signe de votre appartenance à une congrégation. Et au-delà du signe de cette croix et de ce qu'elle représente, que vous avez vu 1000 fois, que vous passez autour du cou tous les jours, que vous ajustez peut-être le matin avant de passer la porte de votre chambre, qu'elle représente finalement votre appartenance à cette congrégation où vous avez choisi, décidé de vivre la fraternité et la communion. Elle peut représenter toutes les communautés dans, par lesquelles vous êtes passé, toutes les sœurs avec qui vous avez vécu, des beaux moments comme des moments plus tendus, plus compliqués. Elle est aussi le signe de l'ensemble des personnes que vous avez servies, rencontrées tout au long de votre vie au nom de la congrégation, puisque la congrégation vous a envoyé dans différentes missions, dans différents lieux. Différentes missions, différentes obédiences qui quelquefois étaient formidables, d'autres fois un peu plus rudes à accepter, parfois joyeuse et heureuse, et des réussites, peut-être des échecs aussi. En tout cas, cette croix, si ce n'est pas elle physiquement, mais en tout cas toute la congrégation qui vous a envoyé, on est signe de cette consécration et de cette fraternité. Alors oui, je vous invite à la tenir en votre main, un peu comme un geste de prière et d'action de grâce, ou à la regarder tout simplement, en repensant à toutes ces dimensions. Et si peut-être le cynisme nous guette un peu en disant « Ouais, vous savez, moi la vie religieuse, j'y crois plus. » Eh bien, retrouvez peut-être la fraîcheur de votre premier instant, de votre premier oui. Revoyez-vous, jeune sœur, pour qui tout était possible ou presque, retrouvez cet élan de la communion fraternelle, allez reboire, boire à nouveau à cette source du départ. Et cette source du départ n'est rien d'autre que cette croix, la croix que vous portez, votre communauté, et la croix aussi du Christ. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Ce message du Christ nous appelle à entrer dans le courant d'amour de la vie trinitaire, enraciné dans la communauté ecclésiale par le baptême, convaincu que la vie communautaire est un aspect essentiel de notre consécration religieuse, nous nous engageons à vivre en commun les conseils évangéliques. La joie, la simplicité, la disponibilité et l'union fraternelle doivent être les dominantes de notre vie communautaire comme le voulait notre fondateur. Chacune de nous est responsable de la vie communautaire qui se construit par le don mutuel et nécessite la présence active et l'effort de toutes. Dans les relations avec la famille et les autres personnes, dans les loisirs, dans l'usage des moyens de communication sociale, un discernement sérieux compte tenu des obligations et de la mission de chaque sœur s'impose, ainsi que la prudence exigée par la vocation d'une personne consacrée. Un désir réciproque de sanctification anime notre charité fraternelle et se réalise sur le plan spirituel par la prière quotidienne, la participation commune à la liturgie, le partage des biens spirituels, le soutien d'un élan commun de générosité. Notre amour fraternel se concrétise dans la réalité et les exigences de la vie quotidienne. Nous aimer, c'est vouloir toujours davantage nous respecter, nous comprendre et nous accepter tels que nous sommes. Nous montrer prévenantes et porter les fardeaux les unes des autres. Collaborer dans une large et fraternelle disponibilité. Accepter l'aide de nos sœurs avec simplicité. Rechercher une relation personnelle avec chacune et considérer l'amitié comme une richesse. Favoriser leur épanouissement et nous réjouir de leur réussite. Une union profonde de recherche et d'action est la condition indispensable pour bâtir une communauté vivante et forte. Tant que vous serez unis, vous serez heureuse et puissante pour le bien. Consciente de notre fragilité et de notre condition de pécheurs, nous nous engageons à vivre le pardon mutuel et à faire ainsi de nos communautés des lieux de conversion et de réconciliation. Nous aurons à cœur de développer les qualités qui facilitent les relations humaines. Humilité, oubli de soi, pardon, bienveillance réciproque. Dans une vue de foi, nous témoignons à la supérieure une affection respectueuse et une volonté de collaboration profonde qui lui sera un soutien dans sa mission de service de la communauté. Nous entourons d'affection et de délicatesse nos sœurs âgées ou malades. Attentives à les écouter, nous saurons également les inviter à prendre part à nos joies et les intéresser à nos tâches apostoliques. Chaque communauté sera fidèle à acquitter les suffrages pour les sœurs défuntes. Notre vie communautaire, enracinée dans la charité du Christ, est pour nous source d'épanouissement et de dynamisme apostolique, annonçant la vie nouvelle et éternelle, où Dieu sera tout en tous. Elle est notre premier témoignage, signe essentiel demandé par le Seigneur, qu'il soit un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je crois que vous portez, résume cela. La garder autour de votre cou, pas une décoration comme une guirlande de Noël. Elle est un engagement à vouloir peut-être vous refonder dans cette disposition et disponibilité-là. Malgré tout parfois, puissions-nous, chacune, chacun, retrouver l'élan premier de nos engagements, quels qu'ils soient. Puissions-nous dépoussiérer notre cœur et notre vie, et peut-être cette croix, prenez-en soin aussi. Prenez-en soin de l'objet lui-même, mais de tout ce qu'elle représente aussi, de notre vie, de votre vie. Dieu notre Père, tu as mis au cœur de ton prêtre Pierre Bonhomme un amour passionné pour Jésus-Christ, une confiance filiale envers Marie et un goût constant de la prière. Attentif aux appels de l'Esprit-Saint, il a témoigné d'une ardeur missionnaire que rien n'a pu décourager. Nous t'en prions, accorde-nous par son intercession les grâces que nous te demandons. Daigne glorifier ton serviteur et aide-nous à marcher comme lui dans la foi et l'espérance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, bienheureux Pierre Bonhomme, et bonne fin d'après-midi.